Vous écoutez
RMC.
RMC.
Malheureusement, Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola ici.
Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez.
Décevant pour qui? Pour moi, non. Ça sera bien pour toi, non. Prendre tes amis et prendre les groupes de décevants là-bas et les groupes de contents sont le vestiaire florin.
Pour faire de la merde dans la Ligue des Champions, tu as besoin d'être là. On est là et on fait de la merde.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Et salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'after. Il est quasiment 23h et quel plaisir de se retrouver en ce vendredi soir 20 décembre. Peut-être début de vacances pour beaucoup d'entre vous. Petit Vénard, on est heureux de vous accompagner jusqu'à minuit ce soir avec Lionel Charbonnier. Salut Lionel.
Salut Thibaut, salut à tous.
Et avec Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
Au programme ce soir, Dame Coupe. Évidemment, les 32e de finale de Coupe de France, vous les avez vécues en direct sur RMC dans un instant. Mais sorte de petite libre antenne Coupe de France. Vous êtes supporter d'un des clubs de ce soir. Vous avez vibré en écoutant RMC. Vous étiez au stade, peut-être encore mieux. Le 32-16, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'il y a eu deux petites surprises ce soir. Alors Lille, premier club de Ligue 1 qualifié pour les 16e, hein, qui a battu Rouen difficilement 1-0. 3 a battu Metz 3-0. Laval s'en est sorti au tir au but contre Mérignac. Haguenau a battu Boulogne 4-1. C'est une petite surprise. Annecy s'est imposé face au Golev, c'est 2-1. Et Espaly a battu Dijon au tir au but. Ça, c'est la surprise du chef. Pendant que Bastia a battu Saint-Joseph 5-0. Le 32-16, Adrien est là au standard pour analyser ses résultats et les petites histoires que vous avez vécues ce soir. N'hésitez pas. Et puis rapidement, on va basculer tous ensemble sur l'info du soir. Info mercato à vous donner concernant le Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens sont entrés en contact avec Victor Osimhen. 32-16, mais parisiens, est-ce que cette fois Osimhen doit venir à Paris dès cet hiver? Je vous donne les infos dans quelques minutes et on en débat tous ensemble. Le mercato de l'OM également au programme. Mehdi Benassi a été invité de l'after hier soir. Il a parlé mercato. De Zerbi également aujourd'hui en conférence de presse avant le match de Coupe de France de week-end. On l'écoutera. Marseille doit-il absolument se renforcer cet hiver? On vous attend au 32-16, supporters marseillais. Avis tranché de Lionel Charbonnier ce soir concernant l'entraîneur des Verts, Horneland, présenté aujourd'hui. Ça ne suffira pas de changer de coach.
Je pense pas, non.
Tu nous expliqueras tout à l'heure. Et puis, 32-16 également, si vous voulez réagir. Le meilleur de l'actu du jour, d'ici minuit. Et voilà, ça nous fait un programme chargé. Et tous ensemble pour cette heure d'after. Juste avant les trois points, vous dire que ce soir et à 5 jours de Noël, on continue de vous gâter sur RMC puisqu'on a encore le jeu du sapin. Et c'est le moment de vous inscrire, d'envoyer Noël par SMS au 732-16. Il y a des iPhone 16 à gagner, des PS5 Pro, des chèques de plusieurs milliers d'euros. Le sapin est là, à côté de nous. Les boules de l'after sont là. Donc vous inscrivez par SMS et si vous êtes tiré au sort, vous aurez la chance peut-être de repartir avec un beau cadeau. On aura un gagnant ce soir, Lionel et Kevin, je vous le dis. Et vous pouvez voir le
sapin.
C'est
beau sur la boule du sapin. Bon. Je pourrais l'amener pour la mettre chez moi?
Si ça te fait plaisir, je peux. Hein.
C'est gentil, ouais. Ouais. On va demander à notre auditeur qui
te la laisse.
Bah ouais.
Il te laisse la boule. Il gagne, il garde l'intérieur et il laisse la boule pour lui. Voilà. Bien évidemment.
Exactement.
Noël par SMS au 732-16.
Il doit ramener de la thune, j'en suis sûr.
Bonne chance à tout ça. Ah, il y a des beaux cadeaux. Vous dire également que on est en direct sur YouTube, hein. Tout ça, vous pouvez le voir en direct sur l'écran. La chaîne de l'After, @after-foot. Merci à ceux qui sont là et qui sont en train de nous rejoindre de plus en plus nombreux. Et je voulais vous dire aussi, ce soir, en Allemagne, le Bayern a battu le RB Leipzig 5-1. Le Bayern qui reprend le large. 7 points d'avance sur le Bayer Leverkusen en tête du classement. En Espagne, Gérone a battu Valladolid 3-0. Et en Italie, l'AC Milan s'est imposé sur la pelouse du Hellas Vérone 1-0. On est parti.
Le plus important, c'est les 3 points.
Soit l'essentiel, c'est le plus important.
Lionel, tes 3 points ce soir.
Bah, écoute, mon premier point ira directement. Faut que je déclare encore une énième fois ma flamme. Pour Madame Coupe de France que j'adore. J'adore la Coupe de France, c'est notre ADN, c'est l'ADN de notre football français. Et surtout, ne changez pas la formule. Les amateurs contre les pros, quand c'est comme ça, surtout les premiers tours. Bon après, bien sûr. Mais il y a toujours des belles épopées. Il y a toujours, on met toujours en lumière nos bénévoles, le football d'en bas, sans être péjoratif. Une bonne dose d'humilité pour nos joueurs professionnels qui vont voir un peu, qui prennent une petite dose de rappel pour savoir d'où ils viennent. En deux, très vite, Lille qui fait le taf avec la compo de Genesio qui annonce la couleur. Lille va être sur tous les fronts, va jouer toutes les compétitions. Et en trois, place au mercato d'hiver. Parfois, c'est bien de recruter au mercato d'hiver. Et parfois, attention, c'est peut-être pas si bien que ça. Donc, attention.
C'est que normalement, il n'y a plus la prolongation en Coupe de France. Là, t'es parti sur la prolongation
là,
sur les trois points.
J'étais fait des pénaux ouais, et j'étais même un petit ouais. peu.
En même temps, normalement, les soirs de Coupe de France, il n'y a pas de trois points.
Mais là, ce soir, c'est le 20 décembre, j'avais envie de faire les trois points.
Ok.
Ma flamme pour la Madame Coupe de France a été très longue, mais j'étais obligé.
Exactement. Kevin, de quoi tu veux parler ce soir?
Bah écoute, du coup, je vais les abréger puisque Lionel a été assez long et je vais en faire mon premier point. Pour moi, il faut
absolument. Je vais te couper la parole comme ça, tu vas rester.
Non, ça y est, t'as eu ta parole. Là. Vas-y, Kevin.
Pour moi, il faut absolument remettre les prolongations en Coupe de France parce que et c'est le cas depuis deux saisons maintenant. Ils les avaient enlevées pendant le Covid, mais là, ça ressemble absolument à rien sur le nombre de séances de pénalty qu'il y a en Coupe de France. Alors là, le grand public redécouvre la Coupe de France avec les 32e, mais la Coupe de France, elle a déjà commencé depuis quelques mois et il y a absolument beaucoup trop de tirs au but, ça devient n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut absolument remettre très vite les prolongations et sinon la victoire de Lille et la qualification d'Espali. 3 points.
Efficace, il a fini sur le jingle. Magnifique, 23h05, ouais. C'est l'after. Et tiens, commençons tout de suite. Les gars, j'ai lancé tout à l'heure cet appel, cette espèce de libre antenne. C'était les premiers matchs des 32e de finale. Vous choisissez de quoi vous voulez parler ce soir. Il y a Antoine qui nous appelle et c'est un supporter de Rouen. Salut Antoine.
Salut l'after, bonjour à tous.
Sois le bienvenu sur RMC. Tu sors du stade, tu sors de Diochon.
Exactement, je sors de Diochon. Un petit peu de déception évidemment, mais bon, c'est comme ça, c'est la logique.
Et t'as passé quand même un bon match ou pas? Parce que finalement, Lille ne gagne qu'un 0. C'était la belle équipe de Lille. Je crois que c'est Kevin qui le disait, ou Lionel, je sais plus, ou les deux peut-être. Mais est-ce que tu t'y as cru?
Non seulement j'ai été long, mais en plus tu m'enlèves mes 3 points.
Bah, disons qu'il y a une première période où il n'y a pas photo sur le terrain. On peut s'estimer super heureux de rentrer avec un seul but d'écart à la pause. Jonathan David qui combine et fait tout ce qu'il veut dans les 20 derniers mètres, qui touche le poteau et ça nous sauve un petit peu. En deuxième période, on revient avec de meilleures intentions. On fait une première demi-heure qui est assez bonne, mais il manque le petit truc en plus pour enflammer ce match. Et après, dans le dernier quart d'heure, il y a une équipe de Ligue 1 qui sait pourrir un petit peu le match comme il faut, gagner du temps pour garder le résultat. Et c'est là où on voit l'expérience et les deux divisions d'écart.
Non, mais après, moi, plus que de parler de ce match, hein, qui a été, c'est vrai, dans l'ensemble, plutôt bien maîtrisé par les Lillois, même s'ils doivent mener 3-0 à la mi-temps. Derrière, ils se font un tout petit peu peur parce que les Rouennais ont quand même de la qualité. Mais moi, j'ai envie de parler de votre club parce que c'est un club dont on a parlé pas forcément bien sur les 6 derniers mois, même sur la dernière année, avec pas mal de tumulte en interne. Mais quel club? C'est extraordinaire, le FC Rouen. Honnêtement, moi, j'ai jamais été dans ce stade, mais c'est un club que moi j'adore, qui est pris comme exemple. Parce que il y a une ferveur populaire incroyable. Il y a eu cette forme d'injustice. Alors moi, j'ai pas suivi tout ça de près, mais avec la création de QRM, sorti un peu de nulle part, ce club qui était en R1, qui est ressorti avec un président un peu loufoque, mais qui avait quand même eu des résultats derrière des grosses difficultés financières une nouvelle fois dans l'histoire de ce grand club français. Mais toujours, et après je te laisse la parole, toujours à un stade plein, ce rouge, les couleurs, je sais pas, ça me fait un peu penser au Standard de Liège ou au Racing Club de Lens de Normandie. En tout cas, moi j'ai toujours énormément de plaisir à suivre ce club, donc bravo pour l'engouement qu'il y a autour du FC Rouen.
Et surtout, on se souvient de la saison dernière, enfin oui, c'était en 2024 là, mais il y avait les éliminations de Toulouse, de Monaco, dans une ambiance
depuis,
ils ont failli déposer le bilan cet été, et bon, bah, ça s'arrête un peu tôt quand même, Antoine, hein.
Ouais, mais quand on a, comme vous le disiez à l'instant, sorti deux Ligue 1 sur l'année civile, avec des matchs où clairement on voyait pas la différence de division, ouais. On va clôturer l'année 2024 en se disant que cette Coupe de France, elle a surtout laissé de super souvenirs au stade Robert Diochon. Et c'est vrai, Kevin, tu as raison, il y a une ferveur qui est assez exceptionnelle, qui fait aussi le charme de ce championnat national qu'on regarde trop peu, je pense. Mais il y a des villes comme Rouen, il y a des villes comme Nancy où il y a vraiment un public qui est là et une ambiance qui est particulière. Donc on vit pas les plus grosses affiches de France, mais on est super heureux de se retrouver tous le vendredi au stade, et on espère le voir assez souvent comme ce soir plein à craquer.
Et puis surtout, l'important, Antoine, c'est que dans 7 ans, 2031, tu es en Ligue des Champions. C'est ça qui est bon.
Il y a que les enfants qui croient au cadeau du Père Postel. Hein.
C'était l'annonce du président rouennais il y a quelques mois, c'est ça. C'était.
Ouais.
Antoine, j'ai une petite question. Toi qui vas voir ton équipe tous les soirs et que là tu sors du stade, hein, c'est ça. Hein.
Exactement.
Ouais. Quelle est la plus grosse différence, celle qui te choque entre une Ligue 1 et les matchs quand tu vois tes joueurs ce soir face à ces joueurs de Ligue 1, quel est le plus gros, qu'est-ce qui te choque le plus, la différence qui te choque le plus?
Eh ben, j'en parlais avec mes amis en tribune. Ce qui est assez fou, c'est la facilité pour les Lillois de combiner dans les 20 derniers mètres. C'est des passes super fortes, super précises dans des petits espaces. Et c'est assez choquant. Et c'est là-dessus qu'on pourrait s'en prendre 3-4 ce soir. Et là, on se dit, ah ouais, il y a quand même une classe.
Et sur les transitions, ça te choque pas?
Ouais, peut-être un peu moins. Alors, c'est mon ressenti, mais c'était surtout dur pour nous, les transitions, plus qu'on avait l'impression que c'était facile pour eux.
En tout cas, Antoine, merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir de parler de Rouen. Kevin a kiffé également. Je te souhaite une bonne suite de saison. Et puis, à très vite. Salut dans l'after. Passe de bonnes fêtes, Antoine.
À très vite. Bonne soirée. Bonne fête
à bientôt.
À tous les auditeurs et à toute l'équipe.
Sur RMC. D'ailleurs, ce week-end de Coupe de France, ça va être exceptionnel. Hein, sur RMC, ça a commencé ce soir. On avait des commentateurs sur toutes les pelouses. Et c'est le cas tout le week-end. Les 32 matchs. Commentateur RMC sur chacune des pelouses. On va vibrer tout ce week-end avec la Coupe de France dès demain après-midi, demain soir, dimanche également, les petits clubs, les grands clubs. On sera partout. C'est un week-end de Coupe de France exceptionnel sur RMC. Mais on n'en oublie pas le reste de l'actu foot et notamment à 10 jours de l'ouverture du mercato, l'actu marché des transferts. On parlera de l'OM tout à l'heure, mais d'abord, le Paris Saint-Germain, info RMC Sport, le PSG a contacté Victor Osimhen pour cet hiver. Je vous donne le détail dans un instant de l'info Fabrice Hawkins. Et on vous attend au 32-16 supporters parisiens. Est-ce que cette fois Osimhen doit venir? Luis Enrique n'avait pas voulu l'été dernier. Vous faites le 32-16 et vous débattez en direct avec Kevin Diaz, Lionel Charbonnier, l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot, Thibaut
Giangrande. C'est pas mal ce petit jingle avec les petites cloches de Noël, ça fait plaisir. Plus que 4 dodos les enfants. Kevin Diaz, Lionel Charbonnier, on est là jusqu'à minuit. L'Olympique de Marseille au programme dans quelques minutes. On écoutera Roberto De Zerbi aujourd'hui en conférence de presse. L'OM doit-il absolument recruter cet hiver? 32-16, mais Marseillais, mais d'abord le Paris Saint-Germain. Et je vous attends là aussi au 32-16 supporters parisiens. Info RMC Sport du soir, signé Fabrice Hawkins. Le PSG a donc contacté Victor Osimhen pour cet hiver. Pour ce mercato d'hiver, on le sait que l'attaquant nigérian de 25 ans a des partisans à Paris, connaît Luis Campos de longue date. Paris avait déjà bossé sur ce dossier l'été dernier, mais ça n'avait pas abouti. Luis Enrique, notamment, n'était pas très chaud.
C'est ce que je comprends pas, c'est Luis Enrique ne le voulait pas.
L'été dernier. Peut-être que le début de saison a fait changer Luis Enrique.
Ouais.
En tout cas, il avait fini par atterrir à Galatasaray, prêté par Naples, puisque Naples n'avait pas réussi à le vendre au prix souhaité par son président. Et donc, selon nos informations, Osimhen a été contacté par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Alors, c'est loin d'être fait. Il n'est pas insensible au PSG, mais il se sent bien en Turquie, où il a été bien accueilli, où il est plutôt bon depuis le début de saison. Donc, l'incertitude, c'est de savoir si Luis Enrique a changé d'avis. On n'en est pas encore certain. Autre souci, la situation contractuelle d'Osimhen, puisque il appartient toujours au Napoli, il est prêté au Galatasaray, donc c'est une discussion à trois clubs. Et puis, ça dépendra également de l'avenir de Kolo Muani. Oui, 75 millions d'euros, hein, la clause de sortie d'Osimhen. Mais tout ça dépend donc de
Kolo. C'était cet été.
Non, c'est maintenant. C'est maintenant. On serait sur une clause de sortie à 75 millions d'euros. Non, cet été, c'était beaucoup plus. On était sur 120. Kolo Muani, qui lui est donc toujours à Paris, il intéresse plusieurs clubs en Angleterre, en Allemagne, aussi en Ligue 1. On en a parlé avec Monaco. Sachant que Paris, donc, qui est sur Osimhen, pourrait aussi choisir d'investir plutôt sur un ailier cet hiver pour apporter de la concurrence à Bradley Barcola. Il y a des discussions en ce sens ces derniers jours. Un joueur dont on n'a pas le nom n'a pas filtré, mais un joueur a été contacté, ce n'est pas Ryan Cherki. Voilà, Paris s'est positionné également sur un ailier dont la venue pourrait également dépendre de l'avenir en Ligue des Champions. Khalif ou pas qualif. Est-ce que Osimhen, au mois de janvier, Luis Enrique doit dire oui, cette fois 32-16, mes supporters parisiens. Kevin, Lionel.
Je ne sais pas s'il n'en voulait pas cet été, je vois pas pourquoi il en voudrait maintenant.
Bah, il y a quand même eu 6 mois là.
Oui,
mais s'est peut-être rendu compte que notamment à ce poste de numéro 9, ça avait été compliqué.
Non, mais que dans un certain football, on puisse penser que le Paris Saint-Germain a besoin d'un numéro 9. Je peux l'entendre, mais dans le football pratiqué par Luis Enrique, je exactement. Le rappelle, il n'y a pas vraiment de numéro 9. Il n'y en a pas eu vraiment en Espagne, il n'y en a pas eu non plus à l'époque de son Barça, puisque c'était Messi qui jouait souvent en faux numéro 9, mais c'est pas vraiment un 9 à la Osimhen. Donc aujourd'hui, c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que peut-être que le Paris Saint-Germain recrutera Osimhen, mais je ne suis pas sûr que ce sera le choix de Luis Enrique. Après, ça peut être une opportunité de marché, comme ça avait été le cas pour Donnarumma à l'époque. À l'époque de Donnarumma, le PSG n'avait pas forcément besoin d'un gardien, mais puisque Donnarumma était libre, il l'avait pris. Ok, force est de constater que c'est pas le plus grand gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Osimhen, c'est un bon avant-centre, mais c'est un avant-centre qui est quand même très bon sur centre, très bon sur passe en profondeur. Et on sait que le Paris Saint-Germain, ça reste une équipe qui a souvent une possession très haute. Et on sait que c'est une équipe plutôt qui perfore dans l'axe, etc. Donc il peut jouer, ça peut marcher, mais j'espère vraiment que c'est Luis Enrique qui va appuyer sur la détente, parce que sinon il pourrait se retrouver dans une voie de garage très très vite si il rentre pas dans le système.
Lionel.
Bah, je me pose la question, savoir si Luis Enrique a toujours les clés du vestiaire avec cette demande là quand tu veux pas un joueur au mois de juin et que tu mets ton style de jeu en place et que 6 mois après, on te dit, on parle de ce joueur dont l'entraîneur, que l'entraîneur ne voulait pas. Tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment Enrique qui choisit? Est-ce que Enrique, il serait pas en train de changer? Si c'est Enrique qui choisit vraiment, est-ce que il serait pas en train de changer son style de jeu? Parce après, que pour là, moi, dans le style de jeu que lui, il a voulu mettre en place actuellement, je vois pas le profil d'Osimhen. Je vois le même profil chez Osimhen que chez Kolo Muani.
Après, sur le Luis Enrique, on n'a pas l'info du positionnement. Ça se trouve, c'est lui qui en a discuté avec Campos. Ça, on n'a pas encore l'info définitive. Et ça se trouve, il dira non. Mais est-ce que vous pensez pas, tu crois pas, Lionel, qu'un
Osimhen, c'est une grosse bêtise. Hein, si on ne contacte pas un joueur avant de demander l'avis de l'entraîneur.
Oui.
Mais si, ce que je veux dire, si c'est que mais le joueur en lui-même, si tu donnes les clés du vestiaire à l'entraîneur, tu demandes à l'entraîneur, est-ce que tu penses que Osimhen, alors là, est-ce qu'il dit, je pense que ça a été fait comme
oui,
ça.
Mais est-ce qu'Osimhen il réglerait pas des problèmes dans ce Paris Saint-Germain?
Il va falloir changer le style de jeu.
Problème, un problème d'efficacité, par exemple.
T'as vu le nombre de buts du PSG en Ligue 1?
En Ligue des Champions. Oui, en Ligue 1, en Ligue 1, Paris a besoin de personne,
Osimhen,
on est d'accord.
Osimhen, c'est un joueur qui, pour l'instant, en Ligue des Champions, il a joué un petit peu avec Napoli, mais c'est pas Zlatan Ibrahimovic non plus. C'est pas un mec qui a fait 10 ans de Ligue des Champions, c'est pas Lewandowski, c'est un bon joueur.
Mais dans la possession, on sait pas vraiment ce qu'il vaut dans la possession.
Galatasaray. Après, c'est un buteur, il n'y a pas de problème. Il a déjà marqué en Ligue 1, on l'a déjà vu en Ligue 1, il s'est marqué des buts en Italie, avec sa sélection, bref, aucun problème. Mais, le Paris Saint-Germain, ils sont pas encore sûrs de se qualifier en Ligue des Champions, ça je le rappelle. Et en Ligue 1, c'est fini la Ligue 1. La Ligue 1, c'est 10 points d'avance, c'est meilleure attaque du PSG sur les 3 dernières saisons, c'est très fort. Donc en Ligue 1, ils marquent des buts, ils ont pas besoin d'Osimhen pour ça. Donc ça, ce serait plutôt pour la Ligue des Champions. Je sais pas, faudra voir, je suis très curieux.
Antoine est là.
Et puis c'est pas une opportunité gratuite, c'est pas comme Donnarumma, comme Kevin disait, c'est quand même 75 millions d'euros.
Ouais, après, sous réserve aussi que donc Kolo Muani parte et que tu récupères un billet sur Kolo Muani. Voilà, tu peux faire.
Non, mais est-ce qu'à la fin de la saison, il est libre, Osimhen?
J'ai pas l'info, je vais vérifier. Antoine est là, supporter du Paris Saint-Germain. Il nous a appelé au 32-16. Salut Antoine.
Mais messieurs, bonsoir.
Salut Antoine. Antoine, bonsoir.
Bonsoir. Oui, donc c'était pour intervenir au sujet du mercato hivernal.
Ouais.
Précisément, donc je vous entendais parler de Victor Osimhen. Mmh. Pour moi, Randal Kolo Muani en confiance n'a rien à lui envier sur aucun point. Et comme on sait que Luis Enrique est un adepte du faux neuf, pour moi le faux neuf parfait pour le PSG, c'est Ryan Cherki. Pour moi, Ryan Cherki, absolument. Il est parce que pour moi le poste du faux neuf, il ne peut être utilisé que par Léo Messi. Et pour moi, Ryan Cherki serait le joueur parfait. Pour moi, il est de la trempe
Alors même si c'est pas le même style de jeu, des Musiala, des Pedri, des De La Trempe, de ces cracks là. Et cette année,
très fan de Cherki quand même.
Le football, ça va vite en 3 semaines. Hein.
Ah ouais.
Et ouais, en, non, mais si, plus, moi, je suis d'accord avec Antoine. Je suis d'accord avec toi, Antoine, tout simplement parce que s'il y a un secteur où t'as vraiment besoin de changer quelque chose et qui peut apporter quelque chose, pour moi c'est pas comme on vient de dire avec Osimhen comme ça. C'est peut-être un mec qui va te créer quelque chose de neuf. D'ailleurs, on l'a vu dans une domination dans les 20 derniers mètres, dans les petits espaces, ils n'y arrivent pas, ils essaient de contourner, ils n'y arrivent pas. Souvent, ils ont buté, notamment en Champions League, ils ont buté à cause du manque d'un mec, d'un créateur de quelque chose.
Alors, quand ça marchait pas, tout le monde nous disait finalement il faut un numéro 9 au PSG. Là,
c'est pas tout le monde.
Il en faut un dans les 23. On l'a vu avec Ramos sur corner qui vient faire une différence, qui vient faire le break. Mais pour moi, le poste de faux numéro 9, il ne peut être que utilisé dans un profil type Léo Messi. Et pour moi, dans la planète foot, le joueur type profil Messi, c'est Ryan Cherki.
Bon, je t'avoue que pour l'instant, j'ai un peu de mal à entendre Messi et Cherki dans la même phrase, Antoine.
Ouais, mais peut-être que dans le style.
Non, mais franchement, même sans parler de phrase, juste le paragraphe, quoi. Dans le même paragraphe, c'est compliqué.
Je comprends ce que veut dire Antoine. Non, mais soit un mec qui crée quelque chose, qui déstabilise, c'est-à-dire que.
Non, mais je veux dire, Cherki, on l'a jamais vu dans ce rôle de numéro 9. Il joue en 10,
qui va tourner derrière l'électron libre. L'électron libre qui pourrait rentrer dans le. Et pour moi, du coup, Cherki. Un mec comme Cherki pourrait rentrer, pas spécialement lui, mais quelqu'un comme ça de ce profil-là pourrait rentrer
C'est Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc c'est pas Pierre Sage. Donc Luis Enrique, tu crois vraiment qu'il va avoir la patience pour travailler avec Ryan Cherki maintenant, tout de suite, en hiver.
Il n'en nécessite plus de patience. Il a montré cette année, il a la maturité.
On ne sera pas d'accord.
Mais par rapport à Osimhen, alors il aurait la patience?
Non, mais Osimhen, moi, vous montrez une vidéo d'Osimhen et de Randal Kolo Muani qui est en mauvaise qualité. Ah ouais. Pour moi, c'est la même personne. Ah, mais oui.
Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors,
voilà, le profil Cherki, pour moi, c'est le joueur ultime. Il a les deux pieds, il a la passe laser dans les petits espaces.
Le joueur ultime, en plus.
Ah, pour le système de Luis Enrique, absolument. Et je vous laisse imaginer le talent de Cherki avec toute la qualité du Paris Saint-Germain autour de lui.
Après, quand même, avec le doute, encore une fois, pourquoi pas, mais on l'a jamais vu à ce poste-là vraiment. Enfin, on l'a jamais vu à ce poste-là, quoi. Il a toujours eu un.
Il y aurait tellement de qualité autour de lui qui brillerait. J'en suis persuadé.
Merci d'avoir été là, en tout cas, Antoine. Passe une bonne soirée.
Au plaisir.
Salut,
Antoine. Et Ryan Cherki en équipe de France.
Tu l'aimes pas trop, hein, Ryan Cherki.
Au Real, sinon, non.
je reçois son maillot, là. Donc,
ouais. Ah, d'accord.
Mais évidemment, Cherki à Madrid, premier degré.
D'accord. Mmh. Mais t'es supporter du PSG, Antoine?
Oui, aussi.
Supporter du PSG et né à Marseille.
Ok.
Très bien. Et c'est absolument prendre rôle, je suis très premier degré.
Ça marche. Merci, Antoine, d'avoir été là, en tout cas. Bonne soirée.
Donc, ça t'a rien fait que Rabiot aussi.
je suis comblé. Je suis un homme comblé par la venue de Rabiot chez nous. Bon.
À bientôt, Antoine. Passe de bonnes fêtes. Ciao. Merci d'avoir été là. Ce qu'on nous dit, Fabrice, aussi, là, dans l'info du jour, c'est que Paris discute aussi avec un ailier. Là, on n'a pas le nom. Et qui n'est pas Ryan Cherki. Ça, on le sait aussi. Désolé pour Antoine.
Est-ce que ce serait pas Marcus Rashford?
Vous pensez que Rashford...
Bah écoute, Rashford en difficulté avec Manchester United, ouais. Rashford qui était sur les tablettes du PSG il y a quelques temps. Rashford qui est un joueur qui certes n'est plus le joueur qu'il était il y a encore, disons 2 saisons, mais qui pour le coup pourrait correspondre à un joueur qui va concurrencer Bradley Barcola.
Pourquoi le concurrencer?
Parce que
il n'a pas été bon là.
Il a même été très très mauvais depuis un mois et demi.
Enfin bon, jusqu'à maintenant quand même, je pense que sur ce qu'il a fait, on n'a pas trop à se plaindre.
Les infos, c'est que le PSG chercherait un joueur
pour le concurrencer. Mais je comprends pas.
Le concurrencer, c'est pas mal.
Alors, est-ce que justement, peut-être que Barcola n'a pas été hyper fort jusqu'à maintenant, tout simplement parce qu'il a déjà entendu
qu'on le mettra en concurrence et que quelque part, c'est peut-être pas un joueur à mettre en concurrence.
Non, mais là, ça fait 2 mois que c'est très compliqué pour Barcola.
Ça fait peut-être 2 mois qu'on en parle aussi. Très compliqué, je trouve quand même que il crée quand même des actions décisives. Alors c'est vrai qu'il marque moins, c'est pas un buteur, c'est pas. Mais quand tu veux, tu sais, quand tu veux libérer des joueurs sur les côtés, généralement tu vas chercher un buteur. Alors est-ce que c'est pour ça qu'ils veulent aller chercher Osimhen parce que c'est un buteur? Mais ça veut dire encore une fois changer toute la philosophie de jeu de Luis Enrique. Donc je comprends pas. Moi pour l'instant j'entends soit un ailier, soit un attaquant. Le seul. Et je suis d'accord, et je rejoins Antoine, notre auditeur de tout à l'heure. Pour moi, le seul poste où il y aurait quelque chose peut-être à faire, s'il y avait une opportunité énorme, ça serait en poste de 10, 9,5, 10, pour vraiment un créatif, un joueur comme ça. Sinon, le reste, je ne touche pas.
Kevin, un concurrent pour Barcola, tu achètes?
Oui, un concurrent pour Barcola, pourquoi pas. Après, moi, j'avais dit que j'avais compris aussi pourquoi cet été, ils n'ont pas forcément recruté de concurrents de très haut niveau. On avait parlé de Leao, on avait parlé de Rashford, on avait parlé de Kvaratskhelia. Donc, ça permettait quand même à un jeune joueur de se développer, d'avoir du temps. Il a été très, très bon en première partie de saison, donc ça a bien marché. Ensuite, après l'équipe de France, il a peut-être eu un contre-coup. Ça arrive aussi souvent qu'un joueur, quand il est sélectionné, ensuite, il a plus de choses à digérer. Hier, Daniel disait dans l'after que son entourage n'aime pas trop le surnom de Bambi et que ça commence à leur taper sur le système. Donc on voit qu'il y a pas mal d'agacement. Après, la trêve va arriver aussi. C'est la première fois qu'il enchaîne autant de matchs de très haut niveau avec autant de sollicitations, je l'ai dit, avec l'équipe de France, la Coupe d'Europe, etc. En tout cas, la Ligue des Champions. Donc tout ça, il faut le digérer quand tu es un jeune joueur. Maintenant, il faut en effet que le Paris Saint-Germain arrive à trouver des options. Moi, je trouve que, alors on a parlé, on avait notre auditeur tout à l'heure qui était fou amoureux de Rayan Cherki. Moi, je trouve quand même que.
Ah bon, j'ai pas vu moi-même.
Ouais, c'est vrai. Et je trouve quand même qu'un joueur comme Désiré Doué, c'est un joueur qui a beaucoup beaucoup de talent. Sinon, il n'aurait pas été recruté aussi cher par le Paris Saint-Germain. Il va concurrencer Bradley Barcola quoi qu'il arrive, c'est clair. Il peut même jouer faux numéro 9. C'est un joueur qui est très polyvalent, donc c'est pour ça qu'il passe très bien dans le système de Luis Enrique, puisqu'il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer avant-centre ou faux numéro 9, numéro 10. Donc il y a quand même des solutions. Il y a toujours un Kanginli, même si on pense qu'au PSG il a pas forcément sa place, mais il y a quand même des solutions. Et je le rappelle, le problème, c'est que le PSG, il leur reste 2 matchs sur Ligue des Champions. Et s'ils sont éliminés, ils font quoi? Ils vont recruter un mec pour gagner la Ligue 1 alors qu'elle est quasiment déjà gagnée. Donc attention à ne pas se précipiter non plus.
Le contrat d'Osimhen, c'est 2026. Donc il reste encore 1 an et demi, ce n'est pas gratuit l'été prochain. Ouais.
Dans l'information de Fabrice,
le prix doit descendre
c'est ou l'un ou l'autre?
Oui,
ou c'est les deux?
Non, je pense que c'est l'un ou l'autre.
D'accord.
Et parce que espérant après, pour eux que l'Omonie s'en aille.
Peut-être l'option de reproduire le duo de Kvaratskhelia Osimhen.
Oui. Bon, en tout cas, dans le chat de la chaîne YouTube, t'as parlé de Rashford, Kevin. C'est pas du tout l'info du soir. C'est un nom que t'as soumis. C'est parti en débat sur Rashford pour ou contre. Et puis, je vous dis aussi, ce que j'ai vu passer là sur le Antoine qui vous a appelé au 32-16. N'importe qui peut appeler au 32-16. Si vous voulez passer à l'antenne, il suffit d'appeler. Parce qu'il y en a qui disent c'est qui? 32-16, les gars.
Ils ont dit quoi?
Non, sur son amour pour Cherki. Oui,
moi,
voilà.
Moi, moment, j'ai cru à une caméra cachée.
Oui,
quand même.
Oui.
Le Marseille, mais non, qui est pour Paris.
Il était bien supporter du Paris Saint-Germain. Et 32-16. Et vous pouvez passer à l'antenne. Adrien, là, ce soir au Standard. Dans un instant, l'OM, justement, au programme. Le mercato de l'Olympique de Marseille. Benassia en a parlé hier dans l'after. Vous pouvez alors écouter en podcast cette interview du conseiller sportif de l'OM sur RMC hier soir. Aujourd'hui, en conférence de presse, Roberto De Zerbi. Également, Marseille doit-il absolument recruter cet hiver? Vous appelez au 32-16 et vous venez en débattre avec Lionel Charbonnier, Kevin Diaz, l'after en direct jusqu'à minuit.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot, Thibaut Giangrande.
Il est 23h30, merci d'être là en ce vendredi soir, le 20 décembre. Merci de passer un petit bout de votre soirée en notre compagnie. Lionel Charbonnier, Kevin Diaz sont là, le 32-16. Adri vous attend au Standard pour venir participer au débat, les infos aux emails il y a quelques minutes. Vous pouvez retrouver notre débat en podcast Paris qui jouera contre Lens en 32e de finale de Coupe de France. Dimanche soir, ce sera sur RMC. Et à présent donc, l'Olympique de Marseille, on parlera de Saint-Etienne et son nouveau coach tout à l'heure, l'OM. qui affrontera Saint-Etienne justement dimanche. Benassia était l'invité hier exceptionnel de l'After à Marseille. Vous pouvez retrouver ça également en podcast. Le Mercato, il a été questionné bien évidemment, notamment sur une éventuelle venue de Pogba. Il a dit qu'il fallait faire attention aux équilibres. Et aujourd'hui, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a été également interrogé sur le Mercato. Est-ce qu'il faut se renforcer cet hiver? La réponse de l'entraîneur de l'OM au micro de Florent Germain.
Oui, c'est vrai qu'on a fait cette réunion avec Pablo, Mehdi et Rossi. En ce qui me concerne, j'ai parlé des besoins qu'on avait selon moi. Évidemment, je ne peux pas vous les dire. J'ai toujours eu le soutien des dirigeants et leur accord. Donc on va essayer d'améliorer l'équipe.
Réunion De Zerbi, Longoria, Benassia, Ravanelli sur les profils éventuellement à cibler. Est-ce que l'OM doit absolument se renforcer cet hiver? Le mercato qui débute le 1er janvier, 32-16 supporters marseillais. Kevin.
Écoute, moi je ne sais pas si l'OM doit absolument se renforcer. Mais en tout cas, ce serait quand même une bonne idée de le faire parce que c'est une équipe qui a encore des grosses lacunes. Et je pense que quand je lis les noms qui pourraient déjà quitter le club, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'en centrale, apparemment, Lilian Brassier, ça le fait pas. Il va falloir une solution, et une solution de haut niveau avec une relance très bonne et avec une capacité de couverture très grande. Ensuite, sur les couloirs, hein, il va falloir une option supplémentaire. Et puis après, offensivement, pourquoi pas aussi. Donc j'ai envie de dire, comme c'est souvent le cas, un joueur par ligne. Et là, l'OM, je pense qu'il serait armé pour finir, je ne vais pas dire tranquillement, mais dans de bonnes conditions, dans le top 4.
Lionel, faut recruter absolument cet hiver.
Pour l'OM, hein. On parle que de l'OM là.
Bah oui.
Moi, je te dirais, attention.
On peut parler de Louan Cuiseau si tu veux, mais
non, parce que recruter au mercato hivernal, c'est très compliqué. T'as des équipes qui peuvent le faire, des équipes qui ne devraient pas le faire, simplement parce que, et c'est pour ça que je te dis que l'OM. Mm-hmm. Est-ce que l'OM est dans une dynamique où elle doit absolument recruter? J'en suis pas certain. J'ai l'impression que la dynamique veut que il faut vraiment le faire. S'ils le font avec des pincettes. Je pense qu'il y a un maître mot à l'OM aujourd'hui dans le recrutement, c'est équilibre.
C'est ce équilibre. Que Benassia a dit hier, hein. Ouais, effectivement.
Je sais pas.
Il a vraiment dit, c'est le mot qu'il a employé, il a dit il faut faire attention aux équilibres dans l'équipe.
Ben voilà, que ce soit l'équilibre dans le jeu. Tu peux recruter un joueur si t'as vraiment une opportunité et qu'elle te coûte pas cher et que tu te dis oui, bon bah je vais étudier le cas. Ok, pour l'instant, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? J'en suis pas certain, que ce soit dans le jeu ou alors aussi dans l'équilibre du vestiaire. Parfois, tu te dis, ah ouais, dans le jeu, ça va bien se passer. Mais juste en recrutant un mec, tu changes ton microcosme, tu changes l'ambiance de ton vestiaire et tout peut partir en live parce qu'il peut prendre la place soit d'un milieu de terrain, par exemple, si tu as une opportunité au niveau du milieu de terrain qui peut tout chambouler et tu peux peut-être te perdre un rongier que t'avais pas eu mais que t'es content d'avoir actuellement mais que tu peux reperdre si jamais tu prends un milieu de terrain alors qu'il est très bon. Ça peut être une opportunité aussi, alors je suis d'accord avec Kevin, peut-être. Pour moi, s'il y a une vraie opportunité à faire, s'il y a l'opportunité, c'est dans l'axe, derrière. Mais attention à l'équilibre, il y a un maître mot, c'est équilibre. Et ça, il faut faire... Pour l'OM, très, très, très attention.
On touche pas. Karim est là, supporter de l'OM au 32-16. Salut Karim, bienvenue dans l'After.
Salut l'équipe, bonsoir à tout le monde.
Salut Karim.
Karim, est-ce que tu penses qu'il faut recruter cet hiver pour l'OM?
Bah moi, avant de commencer de parler recrutement, je pense qu'il va falloir dégraisser un peu. Moi, j'ai fait ma liste de 8 joueurs qu'il faut qu'ils partent absolument.
8 ?
Je vous la donne. Van Dijk, Ulysse Garcia, Cornelius, Bamo Maïté, Chancel Mbemba, Kone, Murillo et Liwei. Ça sert à rien, ces joueurs-là ne servent strictement à rien à l'OM. Ils se sont pas adaptés, ils ont pas fait le nécessaire. Je pense qu'avant de penser à recruter, vu les finances de notre club, je pense que la priorité, c'est de dégraisser d'abord. Et je pense qu'avec ces 8 joueurs-là, entre nous, tu te fais un petit peu d'argent et tu peux éventuellement penser à recruter. Et d'ailleurs,
et tu recrutes
le poste en défense. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est aussi nul à domicile? Non, droit.
À
défenseur
droite.
Droit. Défenseur droite, évidemment. Entre nous, je pense que cette année, on est la meilleure équipe à l'extérieur d'Europe. Vous imaginez, pour les premiers 6 mois, on est la meilleure équipe à l'extérieur. À domicile, on pardonnez-moi du terme, mais on pue le caca. C'est parce que défensivement, ça ne va pas. Milieu de terrain, bon, on a commencé à trouver quelque chose depuis quelques matchs. Le coach s'est réveillé, il a compris que de toute façon, il fallait jouer d'une autre manière. En termes d'attaque, Eli Wahi, c'est une énorme erreur. Énorme erreur. Déjà, j'ai toujours pas avalé la couleuvre. Moi, je ne porterai jamais le maillot de l'OM. Ça passe pas. Ça passe pas du tout.
Ouais, si t'avais mis 15 buts là sur les 6 premiers mois, ce serait passé, tu crois pas?
Bah oui, effectivement, parce qu'il aurait montré qu'il avait vraiment les dents pour jouer à l'Olympique de Marseille, pour jouer les dents, pour avoir les dents pour jouer au Stade Vélodrome. Sauf que c'est absolument pas le cas. S'il a trop la pression, pourtant, je me suis dit quand il est arrivé, bon, je vais lui donner une chance. Il a joué à Lens. Lens, c'est quand même une superbe ambiance. Donc il peut être habitué à une ambiance de folie. Il arrive à Marseille, pardonnez-moi du terme, mais il nous a déçus. Moi, il m'a déçu. Donc c'est pour ça la liste des 8 noms que je vous ai donné là. C'est sincèrement les joueurs. Il faut ça y est, on en a pas besoin.
C'est marrant, Karim, que tu. J'ai l'impression, tu sais, que de parler au directeur sportif de l'OM, quoi. Comme si c'est toi qui tenais la bourse, tu vois.
Il a écouté l'after hier.
Original.
Exactement. Toute la soirée, j'étais les oreilles collées au téléphone. J'ai passé la soirée à écouter. Quand j'ai entendu Benassia, il a tout à fait raison. On va revenir sur un point assez particulier, assez chaud. Par rapport à Paul Pogba, entre nous, Paul Pogba, j'aimerais l'avoir à l'OM parce que c'est ronflant, parce que c'est un nom qui ronfle, parce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais on n'en a pas besoin.
Aujourd'hui, c'est pas que t'en as pas besoin, c'est qu'aujourd'hui t'as besoin à d'autres postes plutôt qu'à celui-ci.
Et puis t'as aucune sécurité, tu sais rien, tu ramènes un joueur, tu sais pas comment il va être, tu sais pas, même si je mets surtout pas
en doute son état d'esprit. De Zerbi aujourd'hui, il a dit c'est un champion. Nous, il a dit on est toujours prêt à avoir des champions dans l'équipe, mais bon, il a pas joué depuis longtemps.
Bien
etc.
évidemment, après, là bon. c'est un pari risqué. Alors c'est un pari risqué. Ça dépend. Peut-être que Paul, parce que sur son état d'esprit, j'émets aucun doute. Il va le faire à 300%. Par contre, entre l'état d'esprit et puis après ce qu'il peut t'apporter, ce que tu peux lui essayer de lui livrer sur un plateau, tu peux dérégler toute ta machine et tous tes autres joueurs à côté. Donc pour moi, le pari, honnêtement, je suis pas certain. Sauf s'il y a vraiment, si c'est Pogba, une grosse opportunité.
Maintenant, mais sinon, oui. C'est sûr que moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a absolument à rééquilibrer cet effectif. Par contre, il faut pas faire du chiffre pour du chiffre. Non. Là, il faut vraiment cibler. Je pense que maintenant, il faut que ce soit du calibre Hugberg, Rabiot. Voilà, il faut un gros défenseur parce que t'en as besoin. Parce que aujourd'hui, Lerdy, vous savez ce que j'en pense, mais il faut quelqu'un pour pouvoir l'accompagner. Kondogbia, il fait le taf, mais Kondogbia, voilà, ça reste même pas un défenseur, et pourtant c'est peut-être lui le meilleur dans la défense marseillaise depuis quelques semaines, et c'est dire quand même le chantier. Donc, il faut du monde pour remplacer les joueurs que tu as cités.
Après,
c'est
Karim,
sûr.
Moi, je mettrais juste un bémol par rapport à ce que
ça
tu
pas
dis.
Être facile.
Par rapport à ce que tu dis, pourquoi cette équipe de l'OM, elle ne réussit pas au Vélodrome? Ça fait longtemps que je le dis et ça s'est encore avéré, par exemple à Lille où ça a failli passer contre Lille, ça joue à 3 minutes, c'est que cette équipe, elle a un gros déséquilibre défensif, elle est poussée par son public, elle veut aller de l'avant et lorsqu'elle est en possession, l'OM, tu m'excuseras, mais le jeu de possession, c'est pas trop ça. L'OM est beaucoup plus performant en jeu de transition et donc poussé par le public face à une équipe comme Lille par exemple qui avait la possession du ballon, les transitions étaient deux fois plus vives, deux fois plus fortes et là l'OM est capable de le faire. Donc attention, ça veut dire que l'OM a peut-être, si l'OM doit progresser dans son effectif, avoir amené un mec dans la possession de balle qui te met le pied sur le ballon dans le milieu de terrain et capable de faire terminer les équipes, tes attaques et envoyer tes attaquants sur orbite.
Merci Karim.
Milieu de terrain, il y a rien à reprocher au milieu de terrain. La problématique, c'est la défense de l'OM.
Exactement. À bientôt Karim. Merci d'avoir été là. Passe de bonnes fêtes.
En tout cas, Karim, à vous. Merci.
Salut Karim. Karim a complètement raison. Le problème de l'OM, c'est pas le milieu de terrain. Le problème de l'OM, c'est qu'en défense, c'est faible. Et encore, ils ont trouvé un gardien qui, malgré une saison dernière compliquée, est excellent depuis qu'il est à l'OM. Il a eu quand même des passages à vide, notamment contre Auxerre, par exemple. Mais sinon, il est bon depuis qu'il est à l'OM. Ok, pas de problème. Mais par contre, défensivement, c'est beaucoup trop faible.
Vous êtes pas d'accord là-dessus?
Non, moi, je suis pas d'accord avec ça.
Ah bah, défensivement, que ce soit avec le ballon ou comme disait Karim, en fait, t'as toujours les jambes qui tremblent parce que les mecs, ils font des relances.
Pas depuis qu'il a rongé. Non, mais pas depuis qu'il a rongé. T'as un équilibre depuis qu'il a apporté.
Rongé, il n'est pas défenseur, il est au milieu de terrain.
Et bah justement. Ouais, c'est ce que je dis. Moi, je dis pas que le problème, c'est la défense. Quand ta défense, elle est aux abois, ça veut pas dire forcément que ça vient de la défense. Ça veut dire que peut-être avant, et d'ailleurs, depuis qu'il a rongé, l'équipe, elle peut presser beaucoup plus haut. Rabiot est beaucoup plus libéré. Je le trouve beaucoup mieux, Rabiot, tout simplement, parce qu'il sait que derrière, il a un rongier, qui est capable de compenser. Alors, et quand il y a cette compensation, quand t'es en train d'attaquer, et que tu sais que t'as ta compensation en milieu de terrain, et non pas sur tes défenseurs, t'attaques beaucoup plus facilement.
On continue le débat et on conclut dans un instant avec Ozan qui nous a appelé également au 32-16 sur l'Olympique de Marseille. On écoutera le nouveau coach de Saint-Etienne, également présenté aujourd'hui, Eric Hornland, Kevin Diaz, Lionel Charbonnier en direct jusqu'à minuit, toujours en direct sur YouTube. À tout de suite pour continuer et conclure sur Marseille sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Allez, encore un petit quart d'heure à passer ensemble. Merci d'être là, quel plaisir. Kevin Diaz, Lionel Charbonnier, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Dans quelques instants, on écoute le nouvel entraîneur de Saint-Etienne présenté aujourd'hui, Eric Hornland. Mais d'abord, on conclut sur l'OM, le mercato. Est-ce qu'il faut absolument recruter? Ozan nous a appelé au 32-16. Salut Ozan.
Salut tout le monde, salut.
Est-ce que tu es sur la même ligne, Ozan, que Karim, également supporter de l'OM, qui était avec nous il y a quelques minutes, qui disait en gros, il faut surtout vendre et pas acheter? Toi, tu penses qu'il faut se renforcer dès cet hiver?
Je suis d'accord avec lui à moitié, on va dire. Ouais. Vendre, oui, mais il a donné une liste trop grande de joueurs à vendre.
Ouais.
Il y a des joueurs, pour moi, il faut les vendre absolument. D'autres joueurs, notamment des gars comme Brassier ou Bamomeite, ça, c'est des gars à traiter plutôt, à mon avis.
Et il faut recruter, mais, tu penses?
Mais recruter, comme en fait De Zerbi l'avait dit, il faut absolument recruter derrière. Pour moi, c'est vraiment le poste où il va falloir recruter. Et comme il a dit lui-même, de façon à latéral droit et surtout à gauche, il faut recruter quelqu'un à gauche et se débarrasser soit de Lirola, soit de Murillo et prendre quelqu'un de plus costaud à droite.
Soit des deux.
Les deux ensemble. Les deux, je dis, non, franchement, les deux, ça serait plus embêtant. Tu te débarrasses des deux, même si tu tournes un match par semaine, t'as quand même Tu fais quand même tourner l'effectif un minimum et puis se débarrasser des deux. Je pense qu'il y en a un des deux qui pourra faire l'affaire sur certains matchs, notamment Murillo. Je pense qu'il est plus intéressant sur ce poste-là que Lirola, que je trouve complètement à la ramasse depuis le début de la saison. Et surtout, si on peut se débarrasser d'un Ulysse Garcia, prendre un jeune prospect à gauche, après qui pourra prendre à gauche comme jeune joueur prometteur pour être la doublure de Merlin. Ça c'est au club de voir. Et surtout derrière, pour moi, en soi, il n'y a même pas besoin de recruter derrière. Si on met un petit peu la fierté de côté, quand on réintègre Mbemba dans le 11.
Non mais ça c'est terminé, ça les gars, ça il faut changer
la question. J'ose espérer encore, mais je pense que la question défensive elle peut être vite réglée comme ça.
Non mais les gars, par contre, Chancel Mbemba, c'est fini avec l'Olympique de Marseille. Ah oui, je pense que là c'est assez clair. D'ailleurs, Pablo Longoria a été très juste sur le loft cette semaine. Bien sûr, le loft ça ne plaît à personne, mais en tout cas il était plutôt satisfait de l'effet que ça donne. Voilà, il y a des joueurs qui sont devenus indésirables, malheureusement. C'est comme ça dans tous les métiers. Dans le football, encore une fois, souvent, ça ne plaît pas.
Bah oui, c'est parce que déjà, dans tous les métiers, c'est des choses qui ne se font pas, en fait. Que les mises au placard, etc., c'est pas légal.
Le football n'est pas un métier comme les autres.
Oui, oui.
D'accord. Donc, en fait, il y a très peu de choses qui sont semblables avec, disons, la vie d'une entreprise normale.
C'est toi qui faisais le rapprochement.
C'est-à-dire?
Bah, tu disais, c'est comme dans d'autres métiers.
Non, comme dans d'autres métiers, il y a des avantages et des inconvénients quand t'es footballeur. Hein, quand tout va bien, bah tu vas jouer, tu joues. Et puis quand ça va un peu moins bien ou quand t'as une ou deux altercations, et bah t'es peut-être plus bienvenu dans le vestiaire. Et donc malheureusement, faut s'entraîner à part pour trouver un club, pour te faire comprendre qu'il faut te trouver un club et partir. Voilà là où je voulais en venir. Donc aujourd'hui, Chancel Mbemba, c'est assez clair. Il y a d'autres joueurs qui seront peut-être dans le loft à partir du 1er janvier et qui cette fois, je l'espère pour eux. En tout cas, trouveront une solution de sortie, parce que rester dans un club et ne pas jouer, c'est pas vraiment une mais solution non plus.
Il y a un joueur, et Ozan, j'aimerais ton avis, je comprends pas pourquoi Bamo Maïté est devenu, a disparu comme ça, qu'il faudrait s'en débarrasser, etc. Genre, quand il a joué l'année dernière, il a été bon, voire même très bon. Et
d'accord, après, est-ce qu'on voit des choses à l'entraînement que...
Il était pas mauvais du tout, c'est un joueur polyvalent, il peut jouer à droite, il pouvait jouer en 6, il pouvait jouer derrière. Et grosse interrogation concernant Bamo Maïté. Pourquoi il a disparu? Est-ce qu'il rentre pas dans les plans de Zerbi avec son style de jeu? Je sais pas pourquoi. Il y a pas eu d'explication claire concernant le joueur. Et là, apparemment, l'OM qui voudrait le prêter à Montpellier, de ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que c'est pas le plan B pour l'envoyer dans un club qui probablement descendra à la fin de la saison? Est-ce que c'est pas plomber le joueur? À voir également, mais ça c'est un joueur, et comme tu l'as dit, grosse interrogation le concernant, c'est vrai.
La Coupe de France, là, 32e de finale contre Saint-Etienne à 14h45 dimanche, ce sera sur RMC. Mehdi Benassi, on a parlé hier, de Zerbi également aujourd'hui. On a compris que c'était en train de devenir, dans ce nouveau projet marseillais, un objectif important, cette Coupe de France que l'OM n'a plus gagnée depuis une éternité. Est-ce que toi aussi, c'est un trophée, une aventure que tu as envie de revivre, la Coupe de France?
Bah écoute, cette saison, on joue rien. On a le championnat. Et on a la Coupe de France. Alors là, faut absolument, pour moi, vraiment, là, faut tout faire pour aller chercher un trophée qui fera énormément de bien, surtout pour la suite, sachant qu'on a un calendrier qui est vraiment, vraiment, vraiment light cette saison. Donc l'objectif Coupe de France, je pense vraiment, ça devrait être une priorité du club cette saison. Le podium, je pense qu'il sera, acquis. Voilà, à 98% de chance, le podium il sera acquis. Je vois pas comment on pourra louper le podium, sachant qu'on a fait une première partie de saison plutôt correcte. On va se renforcer là, au mercato très probablement. Donc une deuxième partie de saison avec la patte de Zerbi qui commencera à rentrer un petit peu en compte également. Une deuxième partie de saison en championnat qui sera meilleure. Donc là, faut vraiment essayer de tout faire pour aller chercher. Cette Coupe de France.
Merci Ozan d'avoir été là.
Merci à vous les gars.
Bon week-end. Passe de bonnes fêtes.
Salut Ozan.
Ciao. C'est Lionel.
Il y a un mot qui m'embête, moi, c'est objectif. Objectif Coupe de France. Quand tu remets un objectif à un tirage au sort, pour moi, c'est incompatible. Tu peux pas, selon ton tirage, demain, alors là, ils vont aller faire leur match, ils vont se qualifier, admettons qu'ils se qualifient, et le tour d'après, ils vont tomber contre le PSG au Parc. Ton objectif, tout de suite, parce que la pièce, elle est pas tombée du bon côté.
Oui,
parce que ça va.
Je pense que tu le prends en compte.
Mais je penserais plus de dire, c'est une ambition une véritable ambition d'aller gagner cette Coupe de France, mais de se faire la Coupe de France, un objectif, alors que t'es tout le temps tributaire d'un tirage au sort, moi, je peux pas, ça. Personnellement, je peux pas. L'objectif, c'est-à-dire que je mets tous les moyens et je maîtrise tout, pour pouvoir arriver à atteindre mes objectifs. Là, il y a un truc que je ne maîtrise absolument pas à chaque tour. C'est le tirage au sort. Donc pourquoi en faire un objectif? Personnellement, je peux pas.
Bon, en tout cas, début de l'aventure pour cet objectif de France dimanche à 14. Ouais, c'est validé.
Non, je suis assez d'accord. Bon.
Saint-Etienne, justement, l'adversaire de l'OM dimanche dans ce 32e de finale de Coupe de France avec un nouveau coach, une nouvelle tête sur le banc. Nouvelle d'ailleurs pour nous tous, hein, je pense, Eric Horneland, le nouveau coach de Saint-Etienne qui arrive de Norvège. Il était l'entraîneur du SK Brann. Il a été deux fois vice-champion de Norvège avec ce club qu'il a fait remonter de D2 à la D1. Présenté aujourd'hui au micro d'Edouard G, il explique sa venue, Eric Horneland.
It's a fantastic club.
C'est un club fantastique. Je voulais remercier le club de m'avoir proposé de venir. Ce club a des supporters fantastiques. On va essayer d'apporter de la passion au club. Il y a déjà une base forte qui peut donner l'impulsion à l'équipe. Je suis très fier de pouvoir intégrer cette équipe et de mettre en place ce projet.
On en a déjà parlé un petit peu hier soir. Hein. Il y a beaucoup de Stéphanois, notamment dans le chat, qui mettent en avant que c'est un entraîneur de data, notamment par rapport à Dalloglio, et les nouveaux propriétaires que bon voilà, là ils ont vraiment choisi leur coach, alors que quand ils sont arrivés, il y avait
Et dans la data, ils ont pris en compte qu'ils connaissaient le championnat de Ligue 1.
Peut-être, je ne sais pas.
Ouais.
En tout cas,
mais sûrement, après, je sais pas. Alors, je sais pas où ils sont allés la chercher cette data là, parce que là,
Dalloglio, il connaissait le championnat de Ligue 1, ça l'a pas beaucoup aidé.
Oui, mais enfin, bon, là, tu dois voir.
Attends, excuse-moi, Alex, tu pars dans ton avis tranché.
Ouais.
Alors, juste après ça.
Ah d'accord.
Quand je le vois, toute proportion gardée, j'ai l'impression d'entendre Jurgen Klopp quand il est arrivé à Arsenal.
Et ben là, comment tu l'appelles, Hornoland.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vas chercher. Il te faut des certitudes. Quand tu fais un mercato d'hiver, tu dois avoir des certitudes que ça sera mieux que ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Est-ce que ça sera mieux avec un entraîneur que tu as jamais vu en Ligue 1? On sait pas. Moi, j'ai aucune certitude. Mmh. Si eux, ils ont des certitudes, tant mieux, c'est les dirigeants. Ils en avaient aussi avec ces joueurs-là. Ils voulaient avec l'effectif qui a commencé, dont Olivier Dalloglio, d'ailleurs, s'est plaint tout de suite en disant, attention, c'est un effectif très jeune, post-formation. La moyenne d'âge, elle est très, très jeune. C'est un effectif qui monte de Ligue 2 en Ligue 1, qui doit apprendre très vite avec des jeunes qui doivent sauver un club. Alors qu'ils sont jeunes, c'est-à-dire, je vais reprendre mon exemple de Kamavinga, par exemple à Rennes, lorsque Rennes a sombré et qu'on a demandé à Kamavinga, tout de suite on a dit ah mais Kamavinga, vous voyez, c'est pas aussi bon qu'on veut le dire, tout simplement, si c'était un bon jeune, il tiendrait les Rennais comme ça, bon. Le club Rennais, c'est ce que tout le monde a dit.
Non, pas tout le monde.
90% des gens, c'est ce qu'ils disaient. Alors que tu ne peux pas demander à des jeunes de tenir un club à bout de bras comme ça, notamment des jeunes.
Ce que je veux dire là pour Saint-Etienne, c'est que changer le coach, c'est bien, mais le problème, c'est plutôt l'effectif.
Mais bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Changer le coach, c'est bien.
Enfin, c'est peut-être bien,
oui. On ne sait pas.
Oui.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, il faut avoir des sécurités.
Numéro un, quoi, pour toi.
Pour moi, le problème numéro un, il est d'avoir des cadres, ces jeunes-là. Si tu leur demandes de sauver un club, alors qu'en plus, 90% ne sont pas dans le club depuis des lustres. Ils n'ont pas cet ADN-là, ils n'ont pas tout ça. Pour moi, il faut les encadrer. Il faut un recrutement qui soit judicieux. Recruter des joueurs. Alors eux, par contre, il faut absolument qu'ils recrutent Saint-Etienne. Autant je te disais Marseille, PSG. Ouais. Bon, attention. Là, Saint-Etienne, il faut absolument qu'ils recrutent. Il leur faut au moins un joueur dans chaque ligne, mais il leur faut un cadre, un mec qui encadre ces jeunes-là, des cadres de vestiaire, mais aussi des cadres sur le terrain. Même s'ils vont recruter, je pense, ils vont avoir deux, trois joueurs importants qui vont revenir là après les blessures, mais. Il faut que ces cadres aussi, ce soient des cadres qui aient un minimum de temps de jeu. Tu peux pas prendre un Pogba, par exemple. T'auras aucune certitude avec Pogba.
Oui.
Parce que tu le recrutes et il se blesse tout de suite parce qu'il a pas assez joué. Il leur faut un minimum de temps de jeu. Il leur faut des joueurs qui connaissent vraiment cette Ligue 1, avec une faculté d'adaptation très rapide. Là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. La tâche, elle est très compliquée pour les Stéphanois.
Kevin, rapidement, comment tu analyses l'arrivée de ce coach qu'on ne connaît pas? Est-ce que tu es d'accord avec Lionel sur le fait que finalement c'est plus que le coach ou c'est autre chose le problème des Verts?
Bah, de toute façon, ils sont en pleine reconstruction. Après, comme toute reconstruction, ils avaient besoin d'un nouvel architecte et ils l'ont choisi avec cet entraîneur norvégien. Il y a eu Carlos Novel à Toulouse qui avait remplacé Montagnier. Il y a eu notre ami Rosenior à Strasbourg. Aujourd'hui, les clubs ont complètement changé de modèle. Ils ne veulent pas de cadre, ils veulent que des jeunes, ils ne veulent pas perdre la moindre place dans l'effectif pour d'éventuelles pépites qui pourraient éclore. Certes, c'est pas le football qu'on préfère, mais malheureusement,
Ça marche.
Malheureusement, c'est l'état dans lequel est la Ligue 1 aujourd'hui.
Et ça marche.
Ça marche. À Strasbourg, on verra si ça marche, hein, avec un jeune entraîneur et des jeunes joueurs.
Pour l'instant, Strasbourg, c'est chaud.
On a vu qu'à Toulouse, pour l'instant, en tout cas, ça marche. Même
ça a tenu une année, on va voir la seconde.
Bon, ça fait 3 ans quand même qu'ils arrivent à se maintenir.
On va voir.
Mais c'est vrai que aujourd'hui, okay. Que ça marche ou pas, c'est le modèle qui a été choisi.
Dans un instant, les gars, on va faire un heureux, puisqu'on va jouer au jeu du sapin. Mais juste avant, je voulais vous dire qu'on a ce soir la première réaction de Paul Pogba à la condamnation de de son frère.
Tu descends.
Au lendemain du jugement qui a condamné Mathias Pogba, ses amis d'enfance, Paul Pogba, dit ce soir dans une déclaration à l'AFP vouloir, je cite, tourner la page. Il dit, je cite, il n'y a pas de gagnant dans cette affaire qui implique des membres de ma famille et des personnes que je connais depuis l'enfance. Je peux enfin tourner la page sur cette période extrêmement pénible. Cette conclusion est l'occasion pour tout le monde de se concentrer sur l'avenir. Aurélien est là au 32-16 et il a gagné aujourd'hui. Salut Aurélien.
Salut Aurélien.
Bah Aurélien, t'as été tiré au sort. Tu as envoyé ton petit SMS tout à l'heure. Et c'est donc toi qui vas avoir un cadeau ce soir. Quoi qu'il arrive, un beau cadeau. Et c'est toi qui va décider, qui va avoir ton destin entre tes mains, puisque j'ai à côté de moi le sapin de l'after. 5 boules, Gilbert Bribois, Nicolas Jamin, Daniel Riolo, Nico Villas et moi. C'est toi qui choisis ta boule, il y a un cadeau à l'intérieur.
Ah, bah pour moi, l'after, c'est quand même Gilbert, tu vois. Ça fait longtemps que j'écoute RMC, donc je vais prendre Gilbert.
Ah, c'est pas Daniel ?
Ah, Daniel aussi, j'ai hésité, tu vois, mais bon, après, okay.
J'espère que...
dans ma réflexion qui font que je préfère aller sur Gilbert, voilà.
Parfait. Aurélien, on ouvre la boule. J'ouvre le petit ticket qui est dans cette boule. Et grâce à Gilbert, tu remportes 500 euros, Aurélien. 500 euros pour
génial.
Toi. Bon, ça.
Super.
Félicitations,
magnifique.
Aurélien.
Salut
Aurélien.
Merci à
vous. Bah, 500 euros juste avant Noël. Félicitations Aurélien. Et si vous voulez faire comme Aurélien et tenter de gagner des magnifiques cadeaux, dont des PS5 Pro, des iPhone 16, vous envoyez Noël par SMS au 732-16. Profite bien Aurélien, à bientôt.
Merci beaucoup les gars, continuez comme ça.
Salut. À très vite, salut. Merci salut, Aurélien. Aurélien. Ouais. Merci Kevin, salut, merci Aurélien. Lionel. Passez une bonne soirée. Et de bonnes fêtes les gars. Je crois qu'on se voit pas.
Ouais, merci, bonne fête. Vacances, toi.
Bah, je suis encore là demain, mais vous n'êtes pas là demain.
Bonne fête à tous.
Ouais, passez de bonnes fêtes. Je sais que vous êtes là aussi pendant les vacances, donc tenez bien la baraque. Merci à vous d'avoir été là.
Ciao.
Si vous voulez encore de l'after, n'hésitez pas à l'écouter, les podcasts. Hein, c'est comme toutes les semaines, ils sont là, ils sont tout frais, les podcasts After Marseille, After Paris et les afters des drôles de dames. Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne. Voilà, il y a de quoi encore passer 2-3 heures avec l'after tout de suite. Et retour en direct sur RMC demain matin dès 6h pour Anaïs Matin, votre toute nouvelle matinale week-end pour se réveiller tranquille dans la bonne humeur. Bonne nuit l'équipe.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.